Pour ce jour, le thème c'est « Les prophètes prédisent-ils l'avenir ?» J'essayais d'amener ma boule de cristal, mais je pense que c'est pas trop de cet ordre-là, le prophétisme biblique. Donc, quelle difficulté de choisir un texte pour un tel jour, avec un tel thème, parce que des prophètes, ils sont nombreux dans la Bible. Alors je me suis laissée guider un peu par le hasard. Enfin, pas tout à fait le hasard. Vous savez qu'il existe une liste, ou vous ne savez pas, comme ça vous allez le savoir, une liste de lectures quotidiennes proposée par la Fédération protestante qui s'appelle la Bible en 6 ans, qui veut dire qu'en 6 ans, on aura lu toute la Bible, même un peu plus, puisqu'en 6 ans, on est censé lire 2 fois le Nouveau Testament et 1 fois l'Ancien. Et aujourd'hui, je me suis dit, ben, pourquoi pas regarder quel est le texte du jour ? Eh bien, c'est le texte d'Ésaïe 29 que vous avez sous les yeux. Alors je me suis dit, après tout, choisissons-le, puisque Ésaïe est un prophète. Et puis finalement, ça correspondait bien, je trouve, au message que j'avais envie de faire passer. Alors, je vous l'ai imprimé pour que vous l'ayez sous les yeux. Et puis aussi, parce que c'est un texte long, je ne vais pas le lire en entier. Parce que, vous savez, souvent, les prophètes sont à la fois prophètes de malheur, et puis parfois, ils annoncent aussi la joie, le bonheur. Ils font ce qu'on appelle des oracles de destruction, de malheur, ou bien des oracles de salut ou de restauration. Là, dans ces paroles du prophète au chapitre 29, on trouve les deux. Mais comme aujourd'hui il faisait très beau, que ça sent le printemps, que finalement, si les informations qu'on reçoit sont plutôt moroses, le temps nous invite plutôt à la gaieté, eh bien, profitons-en. C'est pour ça que j'ai choisi de vous lire que le côté positif. Voilà. Mais je ne voudrais pas dire que le prophète ne dit que des choses positives. Donc vous avez aussi, avant, il faut parfois, en effet, pour arriver au positif, traverser quelques épreuves. Et j'y reviendrai d'ailleurs. Donc à partir du verset 17, le chapitre 29 du prophète Ésaïe. Ne s'en faut-il pas d'un bref instant pour que le Liban se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles auront de plus en plus de joie en l'Éternel et les pauvres parmi les humains feront du Saint d'Israël leur allégresse. Car le tyran ne sera plus. Le moqueur aura fini, et tous ceux qui étaient à l'affût pour faire le mal seront retranchés. Ceux qui condamnaient l'homme en justice tendaient des pièges à qui accusait à la porte et écartaient le juste par des accusations sans fondement. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob n'aura plus honte. Maintenant, son visage ne pâlira plus, car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob et ils redouteront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront instruction. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Alors, dans le langage courant, la prophétie, en fait, c'est l'annonce d'un événement à venir, et les prophètes sont ceux qui expriment ces prophéties, ceux qui nous disent l'avenir. Tout à l'heure, je parlais de boule de cristal, c'est un peu pour le commun de ce que l'on entend. Le prophète serait une sorte de devin, ou même de voyant. D'ailleurs, dans la Bible, quand on parle des prophètes, parfois on les nomme voyants. Mais la question du jour s'intéresse bien plus au prophétisme biblique plutôt qu'à ce que pensent les gens si on faisait un micro-trottoir. Donc on va s'intéresser un peu plus à la prophétie biblique et s'interroger si les prophètes bibliques, eh bien, nous prédisent l'avenir. Il faut dire que longtemps, très longtemps, encore maintenant, en fait, les chrétiens particulièrement, les juifs d'une autre manière, mais on va s'intéresser aux chrétiens, ont lu l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, comme étant une sorte de grande prophétie qui n'avait qu'un but ultime, c'est d'annoncer la venue de Jésus. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas un peu de ça dans la Bible hébraïque, mais il y a quand même beaucoup plus d'autres choses. Et maintenant, quand on lit Ésaïe, par exemple, même si on peut entendre l'annonce de Jésus, ce qui est important, c'est le message qui passe. Et on peut dire que lorsqu'on interprétait l'Ancien Testament comme ça, en effet, l'avenir était là, les prophètes étaient là pour nous annoncer une chose bien précise, donc l'avenir, puisqu'ils avaient vécu bien longtemps avant, et nous annoncer la venue du Christ. Alors certes, peut-être, mais à mon avis, chez les prophètes, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui dépasse ce message de la venue du Christ. Et d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être, si je n'oublie pas au moment de ma prédication, eh bien, le Christ lui-même est, peut être qualifié de prophète. Parce que s'il y a une caractéristique que l'on retrouve chez les prophètes, chez tous les prophètes, c'est que le message est plus important que l'homme. Les prophètes, ils n'ont pas eu une vie très drôle, mais ils ont toujours fait passer le message, la parole de Dieu, puisqu'ils sont en fait en quelque sorte à la fois le réceptacle, mais aussi c'est eux qui parlent à la place de Dieu. La parole de Dieu passe bien avant leur petite personne, et on retrouve tout à fait cette caractéristique chez le Christ. Mais pour en revenir aux prophètes bibliques, eh bien, on a longtemps cru qu'il n'y avait que dans la Bible que l'on trouvait des prophètes. En réalité, et ça éclaire d'ailleurs un peu les caractéristiques du prophète biblique, qu'est-ce qui fait la différence avec les autres, il existe des prophètes dans tout l'Orient ancien. Dans les cours royales, il y avait des médecins, des mages, des devins, des chiromanciens, enfin plein de gens, des gens qui lisaient dans les entrailles, dans le marc de café ou je ne sais quoi. Et puis il y avait aussi des prophètes qui avaient un rôle, il faut bien l'avouer, certainement un peu différent de tous ces voyants. Ils avaient un rôle assez politique. Souvent, le roi consultait le prophète pour savoir s'il fallait aller en guerre, mais il lui demandait, au-delà de prédire quelque chose, il lui demandait conseil. Il lui demandait, en quelque sorte, de voir ce qui se passait aujourd'hui pour savoir si on avait les forces d'affronter un demain beaucoup plus guerrier, par exemple. Donc, on trouve de nombreux prophètes, particulièrement au royaume de Marie, qu'on connaît bien puisque ce sont des fouilles françaises faites par André Parot, qui nous ont fait découvrir ces nombreux textes que l'on a retrouvés dans le palais de Marie, qui est une ville au nord de la Mésopotamie, cette fois située, je sais pas trop, en Syrie ou en Irak en ce moment maintenant, enfin bon, dans un pays où on ne peut plus de guerre aller fouiller, ça c'est sûr. Et donc on a retrouvé de nombreux textes où il y a, on peut le dire en fait, des similitudes avec le prophétisme biblique. Et puis plus près, ça c'était en 1200-1300 avant Jésus-Christ. Puis plus près de nous, à l'époque assyrienne, dont l'époque où vit Ésaïe, eh bien on trouve aussi de nombreux textes où les prophètes interviennent. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces textes, on trouve les mêmes formules que dans la Bible. La formule oracle du Seigneur, bon, qui n'est pas dans la prophétie que je vous ai lue aujourd'hui, mais qui intervient très souvent chez tous les prophètes, où la formule, la célèbre formule, « Ainsi parle l'Éternel, Ko Amar Adonai » en hébreu, eh bien, cette formule, elle est dans tous ces textes. Elle est dans vos textes en gras aujourd'hui. Mais bon, et alors c'est, évidemment, ce n'est pas l'Éternel qui parle dans les textes des autres prophètes. Il se réfère soit au roi, soit au Dieu. Donc, mais bon, on retrouve les mêmes formules, on voit qu'on est dans un monde où le prophète fait partie intégrante de ce monde et surtout partie intégrante de la cour du roi. Alors tous les prophètes bibliques ne font pas partie de la cour du roi, mais Ésaïe fait partie de la cour du roi Akaz et des autres rois qui vont succéder. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il faut essayer d'interpréter ce que Ésaïe dit. Il faut, pour comprendre Ésaïe, aussi comprendre le contexte à la fois, le contexte historique de l'époque. Parce que Ésaïe commence son règne sur le roi Akaz dans une période très trouble. C'est la guerre avec les Assyriens. Les voisins du nord, à Samarie, là, les les autres Hébreux qui étaient du royaume du Nord, qui descendaient aussi du grand royaume d'Israël qui a été partagé en deux après Salomon, eh bien, viennent d'être vaincus par les Assyriens. Donc on voit l'époque est trouble. Et même les Assyriens encerclent Jérusalem. Et puis, on ne sait pas pourquoi, rien n'est dit dans la Bible pour nous expliquer, un jour les Assyriens lèvent le siège. Et on entend bien que les oracles, à la fois de malheur mais de restauration d'Ésaïe, vont résonner de manière tout à fait avec l'actualité de ce qu'ils vivent. Et nous les chrétiens, pour revenir à Ésaïe, nous avons tous en tête des passages d'Ésaïe presque par cœur parce qu'on les a interprétés comme étant l'annonce de la venue du Christ, comme je vous l'ai dit. Quand il nous est dit, c'est du rameau d'Ésaïe qu'il y aura un rejeton. Ésaïe, c'est le père de David, donc on nous annonce un rejeton qui vient dans la lignée de David. Les chrétiens ont vu Jésus, mais lorsque Ésaïe prononce ces paroles, il annonce tout simplement au roi Achaz qu'il va avoir un fils et que ce fils pourra vivre. Et on est dans une période très sombre. Et évidemment, les prophètes, ils sont souvent à contre-courant quand même. Ils sont rarement politiquement corrects. Et puis, ils annoncent le bonheur quand tout va mal et le malheur quand tout va bien. Ça, c'est assez caractéristique des prophètes. Il lui dit, ton fils va pouvoir vivre. Et par lui, il va y avoir la paix. Alors là, évidemment, c'est pas tout à fait juste après qu'il y a eu la paix, puisqu'on voit les rois, au contraire, de plus en plus, ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et qu'un jour, il n'y aura plus de descendants davidiques sur le trône de Jérusalem. Mais la prophétie, elle est pour aujourd'hui, au moment où Ésaïe l'a dit. Mais cette prophétie, elle est encore pour nous aujourd'hui. C'est dans cela que je trouve qu'il y a certainement quelque chose à voir avec l'avenir dans la prophétie. C'est-à-dire, ce qui résonne lorsqu'Ésaïe dit ça, ça résonne à ce moment-là, dans une certaine actualité, et les gens le comprennent comme ça. Mais aujourd'hui, on peut encore entendre toutes ces prophéties, tous ces oracles, à la fois de malheur, mais aussi de salut pour nous aujourd'hui. Parce qu'ils sont toujours en lien avec des situations concrètes. Et c'est ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure dans notre texte. Mais avant d'aller un peu plus loin avec Ésaïe, je voudrais faire une petite, une espèce très court exposé sur qu'est-ce que le prophétisme dans la Bible, qui sont les prophètes. Alors étonnamment, on n'y pense pas toujours, en tout cas les chrétiens, parce que pour les juifs c'est bien clair, Abraham et Moïse sont appelés prophètes. C'est même des grands prophètes. On nous dit, juste après la mort de Moïse, à la fin du Deutéronome, il nous est dit, il n'y aura plus de prophète aussi grand que lui, lui qui a parlé face à face avec l'Éternel. Donc, on voit que Abraham, Moïse sont des prophètes. Et pourtant, ils n'ont rien prédit. Ils ont accompagné leur peuple. Ils ont été les porte-parole, surtout Moïse d'ailleurs, le porte-parole de Dieu auprès de Pharaon, auprès du peuple. Il n'a pas une vie très drôle, hein, Moïse. En tout cas, à partir du moment où Dieu l'a appelé, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'avait pas très envie d'y aller, je pense. À partir du moment où Dieu l'a appelé, eh bien, Moïse, il a fallu d'abord qu'il affronte Pharaon. Ça ne devait pas être évident. Ensuite, pendant 40 ans, il a affronté son peuple, ce peuple rebelle qui ne cessait de râler dans le désert. Bon, je les critique, mais peut-être que moi, si j'avais tourné 40 ans en rond dans le désert, je n'aurais pas été très contente non plus. Mais bon, en tout cas, la vie des prophètes, à commencer par Moïse, n'est pas très simple. Mais laissons de côté Moïse et Abraham pour voir que ce qu'on appelle le prophétisme va naître vraiment avec l'arrivée des rois. Tout à l'heure, je disais que Ésaïe était prophète à la cour. Il y a d'autres prophètes dans la Bible qui ne sont pas prophètes de cour. Mais en tout cas, le prophète est une sorte de contre-pouvoir à la royauté. Il est là pour contrebalancer les désirs de toute puissance du roi. Le prophète, il a un rôle éminemment politique. D'abord parce que quand il est prophète de cour, le roi le consulte pour savoir ce qu'il faut faire. Mais parce que quand il n'est pas prophète de cour, il s'invite pour pointer du doigt tout ce qui ne va pas dans le royaume, particulièrement Juda, mais aussi à Samarie et ailleurs, puisque les prophètes sont amenés à prêcher. Regardez, Jonas, il l'a envoyé à Ninive, donc tout à fait ailleurs qu'en Israël. Donc le prophète, il a aussi cette dimension un peu universelle de sa parole, de la parole de Dieu, l'amener à tous et à toutes, mais il a un rôle éminemment politique, ça c'est sûr. Donc le prophétisme dans la Bible, il arrive en même temps que la royauté. Et d'ailleurs, il va plus ou moins s'éteindre après la royauté. Après, on passe à autre chose, mais ça serait pour une autre prédication. Donc, le premier grand prophète, qui est encore à cheval avec les autres, puisqu'il nous est dit qu'il est juge aussi, c'est Samuel, le fameux Samuel, qui va oindre à la fois Saül, puis David. Et puis dans les livres historiques, c'est-à-dire les livres de Samuel et des rois, on rencontre de nombreux prophètes. Je pense que vous avez entendu parler de certains. Eh bien, il y a Samuel, Nathan, Élie, Élisée et quelques autres. Il y a même une femme, elle s'appelle Hulda. Donc, vous voyez, il y a une prophétesse. Puis moi, je l'aime bien, Hulda, parce qu'elle prophétise. C'est un peu ambigu, mais c'est pas mal quand même ce qu'elle prophétise. Elle annonce au roi Josias, donc 150 ans environ après Ésaïe, elle lui annonce que lui, comme il s'est bien comporté et qu'il a toujours fait les choses bien, eh bien, il ne verrait pas le malheur qui va arriver. Alors, c'est un peu ambigu, parce qu'il lui dit, elle lui dit, « Toi, ça va, c'est bien, Dieu t'a reconnu, tu ne verras pas le malheur qui va arriver. » Ça signifie quand même qu'il va arriver un malheur. Mais ça laisse aussi la porte ouverte pour les successeurs. Parce que si le malheur, il est venu, et ça, je vais y revenir, c'est parce qu'ensuite, on n'a pas su continuer le travail entrepris déjà par Josias. En quelque sorte, la prophétie, même lorsqu'elle nous annonce le malheur, ne nous enferme jamais dans ce malheur. Ça, c'est ce qu'on va voir après à partir de ce texte-là. Ça, c'est les prophètes qu'on trouve dans les livres historiques. Et puis, il y a ces prophètes qui ont écrit, qu'on appelle les prophètes écrivains. Alors, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ils sont présentés en ordre décroissant suivant leur apparition en fait, mais aussi la longueur de leur livre, leur apparition dans l'histoire et la longueur de leur livre, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis après ce qu'on appelle les 12 petits prophètes, pas qu'ils soient plus petits, mais leurs livres sont beaucoup plus minces. Il y en a même un qui fait un seul chapitre, donc entre les 66 chapitres de Ésaïe et un chapitre, évidemment on voit qu'ils n'ont pas tout à fait la même importance. Même si je pense que chaque prophète a quelque chose à nous dire d'essentiel. Donc, voilà un peu pour les prophètes dans la Bible. Mais quelles sont donc les caractéristiques des prophètes ? J'ai déjà un peu dit. Ils répondent à un appel, c'est-à-dire que Dieu les appelle. Et puis, ils font passer donc la parole de Dieu avant leur personne. En fait, ils sont là pour dire ce que Dieu leur transmet. C'est une sorte de... Simplement, ça passe par eux, voilà. Ça passe par eux, ça les travaille probablement, ça passe par eux. Et souvent, la parole, comme ils annoncent souvent le malheur, eh bien, leur vie n'est pas très très drôle. Le prophète Osée, par exemple, eh bien, au début, Dieu lui demande d'épouser une prostituée. Parce que Israël, Jérusalem, la ville, le peuple que Dieu a choisi, c'est prostituée. Donc, pour montrer comment le peuple s'est comporté, il demande au prophète, de manière tout à fait symbolique, mais pour le prophète ça n'a rien de symbolique, puisqu'il va vraiment l'épouser, d'épouser une prostituée, d'avoir des enfants avec la prostituée. Donc, c'est pas très drôle, mais alors pour Jérémie c'est encore moins drôle, parce que épouser une prostituée encore c'est mal vu par la société, mais je sais pas après. Jérémie, lui, il va avoir vraiment une vie très, très difficile. Je dis ça avec sourire, mais enfin bon... Si vous lisez le livre du prophète Jérémie, quand même, il en voit toutes les couleurs. Dieu lui demande de se balader avec un joug sur la tête dans la ville de Jérusalem, alors que tout va bien, pour annoncer à tout le monde que ça va être la catastrophe. Alors il se promène avec son joug dans Jérusalem. Bon, je sais pas, moi, un joug, il y en avait un, c'était en décoration sur les murs de la maison de campagne de ma grand-mère quand j'étais petite. Quand il fallait le démonter pour faire la poussière, eh bien, il fallait s'y mettre à deux ou trois. Donc, il s'est baladé avec son joug de bœuf. Après, il a mis une ceinture qu'il a fallu faire pourrir pour montrer que tout le monde allait pourrir aussi. Enfin, il a fait des choses tout à fait sympathiques sur la demande de Dieu. Puis, comme ça ne plaisait pas trop aux autres, on l'a mis dans une citerne. Enfin, bon, et on ne sait pas trop comment sa vie s'est terminée. Probablement pas très bien. Donc on comprend pourquoi les prophètes, ils rechignent parfois à aller prophétiser. Mais surtout, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le prophète est un homme libre. Parce que le prophète, il répond à un appel, mais il a le choix d'ailleurs de répondre ou pas de répondre. Non seulement c'est un homme libre, mais le message qu'il nous adresse est un message qui peut nous libérer. Un message qui nous rappelle que l'être humain est libre et que nous avons à prendre nos responsabilités. Le prophète est libre et il annonce aussi que nous sommes libres. Il est libre par rapport au pouvoir humain. Il est là pour donner le message de Dieu, mais il est libre par rapport au pouvoir humain. Il est toujours libre de refuser. Jonas, d'ailleurs, je ne sais pas si la plupart d'entre vous doivent le connaître, il refuse. Et malgré tout, il arrive quand même à faire passer la parole de Dieu. Donc, revenons un peu à notre texte et à Ésaïe. Alors, Ésaïe, d'abord, c'est un très beau livre, un très grand livre, 66 chapitres. Et puis, c'est surtout une langue magnifique. Ésaïe est un poète. Vous l'avez entendu, la manière dont il parle, dont il dit les choses, eh bien, ça peut nous transporter. C'est souvent assez mal traduit. C'est d'ailleurs très difficile de traduire la poésie hébraïque. Mais il emploie ce langage poétique pour porter le message de Dieu. Parce qu'à travers la poésie, il y a toujours du symbolique et que pour dire Dieu, eh bien, il faut cela aussi. Il se sert beaucoup des images de la nature qui l'entoure, à la fois pour annoncer le malheur, mais aussi pour annoncer le bonheur. Finalement, qui n'a pas envie d'être dans un verger au Liban? Bon, la manière dont il dit les choses est tout à fait poétique et donne envie. Voilà, je pense que c'est important. Donc, il écrit un très long livre, d'ailleurs probablement que, enfin, c'est pas probablement, on sait aujourd'hui que le livre d'Ésaïe, en fait, comporte au moins trois parties. La première qui se passe donc à l'époque des Assyriens, comme je vous l'ai dit, au 8e siècle avant Jésus-Christ à peu près. Une deuxième partie qui commence au chapitre 40, au moment où le peuple est en exil, qui commence par ces magnifiques paroles, « Consolez, consolez mon peuple ». Voilà, Dieu passe par le prophète pour le consoler de sa situation d'exil. Donc là, c'est plus le même prophète, puisqu'on est au 6e siècle, il y a 150 ans presque d'écart. Je n'ai pas très bien calculé, je ne suis pas très forte avec les chiffres. Et puis, une partie, en fait, qu'on appelle le troisième Ésaïe, qui est aussi magnifique, d'ailleurs. Le troisième Ésaïe qui se passe à l'époque où le peuple exilé a le droit de rentrer à Jérusalem. Donc là, on est au 5e siècle, à la fin du 6e, début du 5e siècle. Donc encore une école prophétique avec d'autres prophètes qui parlent. Mais peu importe, nous, ce qui nous intéresse, c'est le livre dans son entier. Et il y a des choses qui traversent ce livre et qui d'ailleurs traversent tout le mouvement prophétique. Ce qui est intéressant, vous l'avez entendu dans notre passage, le prophète parle. Je dirais bien, et vous avez entendu, c'est pour ça que j'aime bien ce passage et je trouvais qu'il correspondait bien, il parle des sourds et des aveugles. Les sourds qui retrouvent l'ouïe, surtout la compréhension d'ailleurs, et les aveugles qui à nouveau voient. Le verbe entendre et comprendre, il n'est pas très très loin en hébreu. Souvent, il y a quelque chose, mais en français aussi d'ailleurs. Hein. Quand on dit que quelqu'un entend vraiment, il faut qu'il comprenne aussi. Donc, parce que la caractéristique du prophète, c'est justement de voir et d'entendre. Il voit, parfois il a des visions, il entend la parole de Dieu. Il voit et il entend. Il voit, ensuite il voit et il dit. Et je pense que c'est ça. On nous dit souvent que les prophètes prédisent, que les prophètes prévoient. Non, le prophète, il ne prédit rien, il voit et il dit. Il a une certaine clairvoyance, certes, c'est-à-dire qu'il est capable de scruter le monde et de voir ce qui est un peu bancal. Et puis, là où ça coince, ça, c'est pas simple. Hein. Et puis, on voit bien aujourd'hui, quand on essaye de scruter notre monde, combien on peut se tromper, y compris les gens les plus informés. Donc, moi, je suis toujours étonnée à chaque fois qu'il y a une révolution, un renversement de tyran, tout le monde est dans la joie. Alors certes, quand un tyran tombe, on peut être dans la joie. Mais, eh bien, ce n'est qu'un début. Après, je ne dirais pas qu'il faut continuer le combat, mais il faut continuer. Rien n'est fini. Il faut continuer à essayer de discerner, à essayer d'être clairvoyant. Le prophète, il voit, il dit, il clairvoit à la limite, mais je pense qu'il ne prédit rien. Sauf, comme je vous l'ai dit, que sa parole est de tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire que la parole des prophètes qu'on lit dans la Bible, on peut l'entendre encore aujourd'hui. Sa parole reste actuelle, elle est toujours contemporaine. C'est en cela que le prophète prie quelque chose, mais ça revient tout le temps. Donc, on voit que le prophète, eh bien, en quelque sorte, il analyse l'actualité. Il analyse l'actualité et il pointe toujours, ça, tous les prophètes pointent une chose essentielle, c'est le non-respect de la justice sociale. Et Ésaïe est tout à fait dans cette lignée. C'est certainement le prophète Amos qui a ouvert la lignée, mais il a un rôle politique, il a un rôle religieux, ça je pense, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, c'est tellement évident que j'ai oublié de le dire, mais bon. Mais pour lui, le religieux et le politique sont indissociables. Quand je dis politique, c'est politique au sens large et au sens noble. Il nous dit, enfin, c'est Dieu qui dit à travers la bouche d'Ésaïe, « Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. » Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est ça. C'est pas arrêter de manger. Arrêter de manger, ça peut-être nous tourner vers Dieu, nous faire réfléchir. Et en cette période de carême, on pourrait réfléchir à ça. Peut-être qu'il faut oublier certaines choses en période de carême. Mais le jeûne qui plaît à Dieu, c'est celui-là. Si on arrête de manger et continue à écraser notre prochain, eh bien ça ne sert à rien. Continuez à vous empiffrer. De toute façon, Dieu, il s'en fiche. Donc, mais si vous voulez vraiment jeûner, eh bien, faites en même temps des actions qui font qui soient agréables à Dieu. Donc, le prophète, en fait, fait partie du dessein de Dieu. Il le comprend, le dessein de Dieu. Mais il nous invite aussi à participer au projet de Dieu. À travers la parole du prophète aussi, on peut entendre une parole qui dit que Dieu a besoin du prophète, mais Dieu a besoin de nous. Et moi, j'en suis persuadée, peut-être pas tout le temps, mais chacune d'entre nous peut à un moment donné être prophète. Il y a des moments où on est clairvoyant. Eh bien, essayons d'aller jusqu'au bout. C'est pas simple, toujours, mais eh bien, il faut essayer d'aller plus loin. Et pour revenir à notre oracle de salut, vous l'avez entendu, il le dit autrement, mais il dit les pauvres. Il emploie les deux mots qui vont en général en couple pour les pauvres et les humbles, les pauvres, on ne sait pas trop comment traduire en français, les deux mots, les pauvres, eh bien, il faut que les pauvres soient dans la joie de Dieu. Être pauvre dans la Bible, ce n'est pas forcément pas avoir d'argent. Je pense qu'on peut tout à fait être pauvre avec un compte en banque très rempli et on peut être riche avec un découvert qui dure depuis trop longtemps. Mais ça, c'est la vie. Je pense que la pauvreté dont parle la Bible, c'est plus une manière d'être. Et voilà, donc ce n'est pas qu'une question une question pécuniaire. Quoique de temps en temps, il insiste bien qu'il ne faut pas non plus trop écraser ceux qui n'ont déjà plus rien. Il ne faut pas leur piquer ce qui leur reste. Bon. Mais donc, la prophétie est toujours en lien avec une éthique, en fait. Une éthique forte, rigoureuse, qui sera reprise par Jésus dans son sermon sur la montagne. On dit souvent Jésus, mais Jésus, il est tout à fait dans la lignée du message des prophètes à ce niveau-là, au niveau d'une éthique tout à fait, une éthique sociale tout à fait rigoureuse. Et lui, il l'a vécu, il l'a donné. Et puis quand il guérit Jésus, c'est pas uniquement pour guérir, c'est parce qu'à chaque fois, il restaure, faites attention après à ce qui se passe, il restaure la personne, il lui donne une mission, il la laisse pas sur le bord de la route, c'est bien mon pote, maintenant tu vois, débrouille-toi. Non, il l'envoie, il lui dit ce qu'il faut faire. Quand le paralysé se relève, il lui dit, lève-toi et marche, prends ton brancard. oublie pas que t'as quelques casseroles avec toi, et vas-y, proclame celui aussi qui l'a guéri des démons. Il lui dit, va annoncer dans toute la décapole, reste pas derrière moi, j'ai pas besoin de toi, va ailleurs, vas-y, annonce. Donc, on voit que Jésus, quand il guérit, il y a aussi une fonction éminemment sociale. Donc, ça, je pense que c'est tout à fait important. Alors, pour revenir aux oracles de malheur, ou de bonheur d'ailleurs, parce que quand on lit les oracles de bonheur, on dit oh, c'est bien, ça fait du bien. Il faut quand même se méfier un petit peu. Donc, je vais commencer par les oracles de malheur quand même. C'est complètement différent de la prophétie de Cassandre ou des choses comme ça dans la tragédie grecque. C'est-à-dire que Dieu, par la bouche du prophète, annonce le malheur. Mais ce malheur n'est jamais là pour nous enfermer. Il est là pour nous prévenir. En fait, le prophète ne dit pas l'avenir, mais il dit en quelque sorte le prévenir. Il prévient. Il dit « attention, attention à ce que vous faites, vous allez droit dans le mur. Attention !» Alors, parfois avec tellement de violence qu'on a du mal à l'entendre, mais c'est vrai que nous avons tellement de violence en nous et autour de nous à éradiquer. Donc, le prophète nous dit « allez, travaille, travaille pour que le monde soit meilleur. » Et alors, il peut proclamer la restauration. Il peut proclamer le salut. Mais c'est pareil, Dieu nous offre son salut, et sa grâce, j'en suis persuadée, la grâce de Dieu est première, mais elle a un certain coût. C'est-à-dire qu'il faut bien y répondre à cette grâce. Et j'y réponds pas en restant dans mon coin, et puis en gardant tout pour moi, et en continuant à vivre comme avant. Non, la grâce, elle a un coût, celle de notre réponse. Le prophète nous rappelle que nous sommes libres de répondre ou de ne pas répondre. Eh bien, si nous ne répondons pas, nous allons au malheur. Si nous répondons, nous pouvons trouver, jour après jour, grâce après grâce, de quoi trouver notre propre salut. Et c'est ça qui est important dans la prophétie. C'est quelque chose qui nous responsabilise. Il n'est pas là pour nous dire « de toute façon, c'est foutu, alors va te coucher » ou « de toute façon, tout va bien et reste, continue à faire ce qu'il faut, tout ira bien. » Non, au contraire, il est là pour nous prévenir. Et l'avenir, c'est comme ça qu'on doit le voir. On a notre part à y faire. Et je voudrais dire que, terminer avec Jésus dans l'évangile de Luc, qui la première chose qu'il fait, en public, une fois qu'il est adulte, qu'il est baptisé et tout bien, qu'il a même été tenté par le diable, eh bien il va dans une synagogue à Capernaum, et puis il ouvre un rouleau, le rouleau d'Ésaïe, bien évidemment, parce que le prophète Ésaïe, il a quand même une grande importance dans le Nouveau Testament. Et puis il dit « les captifs auront la liberté », et il lit Ésaïe, et puis il dit « maintenant, c'est arrivé, c'est arrivé ». D'ailleurs, la réaction est très violente. Hein. Voilà, vous avez vu Ésaïe, il a écrit ça, « maintenant, c'est arrivé ». Alors, soit Jésus nous raconte des blagues, parce que ce n'est pas arrivé ni quand il était présent à cette époque-là, ni aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on vive dans le meilleur des mondes. Et pourtant, c'est arrivé. Aujourd'hui, c'est arrivé. Aujourd'hui, oui, ça peut arriver. Ça dépend de nous, ça dépend de vous, ça dépend de moi, ça dépend de tout le monde. À notre mesure, personne n'est jamais trop petit pour répondre à l'appel de Dieu. Et je pense que quand Jésus nous dit « c'est arrivé », et lui, il va le vivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort, « c'est arrivé ». C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'au bout du bout pour faire passer ce message. Et le message est passé. Est-ce qu'on saura le recevoir aujourd'hui? Le message, lorsqu'il nous annonce le royaume de Dieu, mais ce n'est pas un royaume pour les temps futurs dans 1000 ans ou 2000 ans, ou pour après la mort. Le royaume de Dieu, c'est à construire dès aujourd'hui. Parce que le royaume de Dieu, c'est tout simplement ce monde que Dieu désire. Et je pense que la parole prophétique résonne pour nous rappeler ce que Dieu désire, afin que nous puissions prendre à la fois goûter le bonheur de notre liberté, mais aussi goûter à cette responsabilité qui nous invite à construire ce monde meilleur, ce monde que Dieu désire. Amen.